Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est cette semaine la traditionnelle Assemblée Générale des Nations Unies à New York et à cette occasion, le C40, c'est le groupe des villes qui veulent lutter à leur niveau contre les changements climatiques, se réunit également à New York. Les villes de ce réseau présidé actuellement par la maire de Paris Anne Hidalgo sont un peu moins d'une centaine dans de nombreuses et importantes villes américaines. Elles représentent un quart du PIB mondial. Elles pèsent donc d'un certain poids dans la production de gaz à effet de serre. Elles sont confrontées à des problèmes de pollution et elles ambitionnent de jouer leur rôle dans la limitation de la hausse globale des températures dans les prochaines années. Surtout depuis que le président américain Donald Trump a décidé et confirmé encore ces derniers jours que son pays n'appliquerait pas l'accord de Paris issu de la COP21 à moins d'améliorations substantielles pour son pays. Les villes peuvent-elles prendre le relais des États dans la lutte contre le changement climatique? C'est la question de ce débat. Et pour y répondre et tenter d'y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir au moins un de nos deux invités en studio. Pierre Radan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Dossiers et Débats pour le Développement Durable, 4D, ainsi que fondateur de l'entreprise Futur Facteur 4, consultant indépendant, expert auprès des institutions, conférencier, spécialiste des politiques énergétiques de lutte face au changement climatique. Et les auditeurs de RFI vous connaissent bien, puisque vous avez été chroniqueur sur nos antennes avant, pendant et après la COP21, pendant un moment, chez Anne-Cécile Bras dans l'émission.
J'avoue, c'est pas dur.
Absolument. Et nous allons bientôt avoir le plaisir de recevoir également en studio Bernard Soulages qui n'est pas encore là. On va dire toute la vérité aux auditeurs. Il y a eu un problème de transport en commun pour arriver jusqu'à nos studios à Issy-les-Moulineaux. Et donc, c'est un petit peu pressé et un petit peu agité, mais ça va s'arranger. On va avoir ça dans quelques instants. Bernard Soulages, vous êtes au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de Climate Change. Climate Change est une est une association qui réunit plusieurs milliers d'acteurs non étatiques venus du monde entier, engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. Élus, ONG, entreprises, jeunes, syndicats réunis en coalition pour partager leurs expériences. Alors la question de ce débat, c'est les villes sont-elles un bon niveau d'action pour lutter contre les changements climatiques? Pierre Radan.
Écoutez, d'abord, on ne pourra pas gagner la lutte contre le changement climatique sans les gens. Et donc, le niveau qui est le plus pertinent pour pouvoir avancer collectivement sur cette question du changement climatique, c'est celui de la démocratie de proximité. Alors, bien évidemment, ça passe par les villes. Je dois dire aussi que ça passe énormément par le secteur rural. Le secteur rural a encore plus de capacité d'action que les zones urbaines. Mais bien évidemment, le C40, qui représente les 85 plus grandes villes du monde, pèse bien évidemment très lourd. Et puis, alors, il a une capacité à une appropriation culturelle du sujet. Quand la ville de Paris a fait son plan climat en 2005.
Vous avez un peu couru, on explique ça aux éditeurs.
Voilà. Quand la ville de Paris a fait son plan climat en 2005, les services techniques connaissaient pas le sujet. Les élus connaissaient pas le sujet. Donc la première étape, c'est une étape d'appropriation.
De construire la culture
de
ces sujets.
Et puis ensuite, après ça, il y a toute la machine qui se met en route. Et plus il y a d'acteurs qui sont embarqués, plus ça avance.
Alors, Bernard Soulages, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que les villes sont un bon niveau pour lutter contre les changements climatiques?
Oui, enfin, je reprends d'ailleurs ce que disait mon ami Pierre Radan à l'instant, c'est que il faut pas parler que des villes. Il faut parler des territoires, et dans les territoires, il y a des villes, il y a des provinces, il y a des régions, parce que la question n'est pas que urbaine, même si elle est fortement urbaine.
On rappelle que les villes du C40 représentent à peu près 25% du PIB mondial, donc de l'activité mondiale.
Oui, enfin, oui, mais ça ne représente pas 25% de la population mondiale, ni 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut rester d'une... Moi, je salue tout à fait l'action du C40, hein, et on était très heureux de les avoir avec nous à Agadir, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les régions, les territoires, et parce que dans les villes et les régions, d'ailleurs, de ce point de vue-là, le C40 se fait très bien, il y a aussi une volonté d'emmener l'ensemble des acteurs et pas simplement les décisions locales. Et puis j'ajouterai une deuxième chose, il faut vous dire la vérité, c'est pas la même chose d'habiter en Californie ou d'habiter en Europe comme je l'étais. Les pouvoirs sont pas les mêmes et les capacités à peser. Avec le ministre de l'Environnement de Californie, encore il y a trois jours à Agadir, eux, ils peuvent décider par la loi ce qu'une région française ne peut pas faire. Donc il faut garder une forme de modestie dans ce genre de choses.
Oui, donc c'est une question aussi institutionnelle, ça dépend des pouvoirs de chaque collectivité locale, Pierre Radan.
Oui, en complément de ce que Bernard vient de dire, ce qu'on demande à un maire, c'est pas d'agir uniquement sur ses domaines de compétences. Ses domaines de compétences au sens légal. Comme il l'a dit, en France, les compétences sont limitées. Mais le maire, c'est aussi le premier interlocuteur qui peut contacter les petites entreprises. Les petites entreprises, elles sont invisibles du niveau national. Elles sont même invisibles souvent du niveau régional. Donc, en fait, le rôle d'un maire, d'une collectivité locale, c'est d'être l'animateur du territoire. L'animateur de tous les acteurs du territoire. Et à ce moment-là, c'est pas seulement un problème de cadre légal. C'est pas uniquement un problème de capacité financière. C'est un problème de capacité d'entraînement. Et donc, faire avancer les corporations, l'ensemble des acteurs publics qui existent sur le territoire, qu'ils dépendent du maire ou qu'ils ne dépendent pas du maire. Et puis, encore une fois, le tissu commercial, et puis directement les ménages. C'est cette capacité d'entraînement, c'est cette capacité d'animation qui, là, je dirais, transcende les questions de compétences institutionnelles.
Ça veut dire, Bernard Soulet, que le niveau local, alors je ne parle pas du niveau municipal, pas forcément des villes, le niveau local est celui qui met peut-être le moins de temps à concrétiser des mesures. C'est là que la courroie d'entraînement va le plus vite.
Ah, ça, c'est tout à fait clair. Je vous donne un bon exemple. Nous avons fait un sommet qui s'appelait Climat et Territoire en 2015 à Lyon, où Pierre Radan et beaucoup, le président de la République française, étaient aussi. Et avant la COP21 à Paris. Et ce jour-là, les collectivités locales se sont engagées pour 2020 à faire moins 2 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. C'était pour 2020. L'accord de Paris, lui, il entre en vigueur en 2020. Vous voyez donc, les temps de réaction n'ont absolument rien à voir. Des collectivités locales sont capables de porter immédiatement la bataille, alors que les États, et c'est légitime, hein, c'est des machines plus lourdes, et ben ils vont commencer sérieusement en 2020. Même s'ils ont déjà enchaîné des choses.
Alors, dans ce C40, il n'y a pas 40 villes, il y en a 91 ou 92, je crois, Pierre Radan.
De mémoire, c'est 85, mais bon, alors, on n'est pas près.
Environ. Et encore, il y a des statuts un peu différents.
Oui, alors, voilà. Justement, voilà, ce sont des villes différentes qui sont confrontées à des problématiques différentes. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les problématiques que rencontre une ville comme Paris et une ville comme Montréal ou une autre comme Mexico? Est-ce que, justement, là, il y a pas une difficulté au fait que ces villes ne rencontrent pas forcément les mêmes problématiques en matière de...
Ah bah, écoutez, vous avez plusieurs sujets. Vous avez le problème, bien sûr, de la qualité de construction. Les bâtiments. Alors, certains pays ont des besoins de chauffage, d'autres ont plutôt des besoins de rafraîchissement. Ils ont besoin d'un urbanisme, ils ont besoin de modes de construction adaptés à leur climat. Bon, vous avez bien sûr la question de l'approvisionnement énergétique, qui varie bien sûr très fortement d'un pays à l'autre. Et plus un pays est pauvre, plus il dépend des combustibles fossiles, et plus le kilowattheure pour le consommateur est cher. Et puis vous avez après ça une autre question qui est une question majeure, qui est la question de l'adaptation au changement climatique. Vous avez Paris, vous savez, est une ville qui est inondable. On a connu la crue de la Seine en 1910, on en a connu une
l'an dernier,
voilà,
deux ans.
L'an dernier. Et vous avez des pays, notamment des pays en développement, parce que vous parlez de grandes villes, mais rajoutons Bamako, rajoutons Lagos, qui sont des villes où Dhaka au Bangladesh, où le risque d'inondation, le risque de sécheresse est la préoccupation majeure des maires de ces villes-là. C'est pas forcément des villes qui émettent beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Bamako émet pas beaucoup. Par contre, c'est des villes qui sont beaucoup plus victimes que les autres du changement climatique. Et donc, si vous voulez, vous avez des situations qui varient très très fortement d'une ville à l'autre, et j'aurais même tendance à dire parfois d'un quartier à l'autre.
Oui, ça peut être à ce niveau de localité,
si je
peux dire.
Oui. Et donc la connaissance du territoire, la connaissance de ses enjeux, la connaissance aussi de ses ressources, par exemple d'énergie renouvelable. Toute cette question-là nécessite une approche de terrain. Si vous voulez, la question du climat est un problème planétaire à solution territoriale.
Bernard Soulages, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement les villes sont soumises à des problématiques différentes? Elles peuvent apporter dans la lutte contre les changements climatiques des solutions différentes?
Alors, si l'on reprend un tout petit peu l'histoire du C40, par exemple, pour bien la connaître, le C40 est parti de Michael Bloomberg, de New York, qui a emmené avec lui...
L'ancien maire de New York, oui.
L'ancien maire de New York, qui a emmené avec lui des villes de niveau de développement équivalent. Mais très vite, et notamment sous l'impulsion du maire de Montréal, du maire de Sao Paulo, d'Anne Hidalgo, la volonté a été de porter aussi vers les villes de type grande ville africaine. Mais moi, ce qui m'a frappé à Agadir, c'est que même si les points où ils en sont très différents, les problématiques sont les mêmes. Et il y a, par exemple, sur une question que je connais bien, qui est la mobilité, des approches qui peuvent tout à fait se croiser sur le traitement des déchets, sur l'économie circulaire, sur la question des énergies fossiles que vient d'évoquer Pierre Radan. On a des approches qui sont non pas les mêmes, mais qui sont relativement convergentes. C'est pas pareil, et je crois qu'il faut le dire assez honnêtement, dans le tissu rural. Il y a entre les grandes villes quand même des problématiques un peu pareilles, mais quand vous abordez la question des îles, la question du rural... Là, on est dans des problèmes, notamment d'adaptation, que vient de citer Pierre Radan, qui sont effectivement assez différents.
Alors, que peuvent faire concrètement les villes, Pierre Radan? Est-ce que vous avez des exemples d'actions que des villes de différents pays ont pu prendre pour lutter contre la hausse des températures et les émissions de gaz à effet de serre?
Écoutez, prenons le sujet.
À Paris, la réduction de la circulation, on en a beaucoup parlé ces derniers temps.
Voilà. Prenons le sujet, je dirais, dans l'ordre de progression. La première étape, c'est une étape d'acculturation. C'est comprendre ce que c'est que le changement climatique. Faire un diagnostic du territoire pour bien comprendre quelle est sa personnalité, quelles sont ses forces, et puis aussi, bien évidemment, ses vulnérabilités. On parlait là, encore une fois, de l'adaptation. Et puis, à partir de ça, il y a le travail derrière de constituer à l'intérieur des services de la municipalité et autour d'elle des outils, des équipes qui sont capables d'intervenir dans les différents corps de métier. Par exemple, à l'intérieur du secteur du logement social, pour avoir des logements sociaux bien construits ou bien réhabilités, moins vulnérables au changement climatique, alors que ce soit par rapport au froid ou par rapport de plus en plus aux canicules et aux sécheresses. Derrière ça, il y a la question, comme ça a été dit, la question de la mobilité. On sera bien sûr dans le futur encore souvent obligé d'utiliser une voiture, mais quelle est la qualité des transports collectifs? Quels sont les autres modes de transport que l'on peut utiliser? Vous voyez qu'il y a tout ça qu'il faut arriver à développer et à mettre en place.
Question à laquelle vous avez été confronté directement aujourd'hui, Pierre Radan, ainsi que Bernard Soulages, qui fait son entrée dans ce studio, et puisqu'il a réussi à revenir jusqu'à nos studios d'ici les Moulineaux, car donc on va le répéter, on a eu un petit problème de transport en commun pour arriver jusqu'ici. Merci. Reprenez un petit peu votre souffle.
Vous savez, je suis un rond alpin qui skie et qui court. Donc
très bien. Alors ça, c'est une belle activité. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est l'intérêt pour le C40 de se réunir pendant l'Assemblée générale des Nations Unies? Est-ce que il faut interpeller les États?
Alors ça, oui. J'ai d'ailleurs été presque tous les ans à la Climate Week, qui est ce qui se passe aujourd'hui, la pression que l'on peut faire concrètement à New York, dans ce bâtiment qui est très ouvert, contrairement à l'image qu'on en a, on rencontre les chefs d'État, enfin c'est pas du tout formel comme au Parlement français, paradoxalement. Et donc du coup, la présence, elle est indispensable, et elle est vraiment acceptée et entendue. C'est-à-dire que c'est réciproque. Et puis, encore une fois, je le disais, vous pouvez même croiser le secrétaire général des Nations Unies à la cantine, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, les échanges sont importants. Et puis, il y a, autour de cette Climate Week, pendant l'Assemblée générale des Nations Unies, plein d'autres événements avec les entreprises, avec les ONG, avec plein de partenaires du venu du monde entier. Donc c'est vraiment indispensable.
Alors Pierre Radan, de là à ce que les villes se substituent aux États, vous le disiez, il y a quand même un pas qu'on peut pas franchir. Les États ont quand même la main sur les lois, sur toute la réglementation.
Oui, mais attendez, votre question, excusez-moi, est datée.
Ah, très bien.
Est datée.
On va essayer de se moderniser dans les 5 minutes qui
voilà,
nous restent.
Pendant 15 ans, l'enjeu, c'était que la communauté internationale, notamment les institutions, les États, se mettent en mouvement par rapport à cette question du changement climatique. Au début, c'était uniquement les pays développés. Il a fallu faire venir les pays émergents. Il a fallu faire venir les pays en développement. Ça a été réussi à la COP de Paris. Bon, à partir de ça...
Donc ça, vous considérez que c'est acquis ?
Oui, bien sûr.
Même si les États-Unis
là-dessus qu'on dise pas des bêtises. J'ai fait un pointage avec Nicole Bacharan, qui est une spécialiste des États-Unis.
Des États-Unis, absolument.
Voilà. Eh bien, on est arrivé au pointage que les deux tiers des acteurs américains allaient appliquer l'accord de Paris indépendamment de ce que voulait décider Washington. Que ce soit des gouverneurs, des villes, des grandes entreprises, y compris des multinationales, et puis bien sûr des citoyens et de la société civile. Bon, donc cette étape-là est franchie. Deuxième étape derrière, il fallait mettre en route les acteurs économiques, il fallait mettre en route la finance. Et je dirais, la finance et les acteurs économiques disaient, nous on ira que quand au niveau international ce sera organisé. Bon, et puis maintenant on est à l'étape d'après. Encore une fois, que les décisions étaient prises au niveau international, que les entreprises se mettent en mouvement, c'est très bien. Mais où est le citoyen ? Est-ce que le citoyen l'inscrit dans sa trajectoire de vie ? Parce que est-ce qu'on parle d'une transition, mais c'est pas seulement une transition de la société, c'est une transition personnelle de chaque famille. Et là, les acteurs de terrain, et notamment les collectivités locales, sont le relais indispensable. Donc aujourd'hui, une négociation réussie, il y a la présence des trois étages. Les États, les acteurs économiques, et je dirais les familles, enfin les acteurs de terrain avec les collectivités locales.
Bernard Soulages, il y a un cap qui a été franchi dans la tête des citoyens, tout simplement ?
Alors, moi je serais prudent. Parce que d'une part la planète est grande et donc du coup ne faisons pas en Afrique tu la connais comme moi, je me permets de te tutoyer Pierre, il y a des gens qui sont loin de ça hein, même si j'ai vu à Agadir des centaines d'associations. Et la deuxième question, c'est elle nous est renvoyée comme aux États. Est-ce que nous serons capables d'apporter la preuve à nos concitoyens que nous bougeons? Les collectivités, les États, parce qu'on entraînera les gens. Il y a un problème, comme disent les Anglais, d'accountability, quoi. Est-ce qu'on est capable de rendre compte dans 3, 4, 5 ans du fait qu'on a vraiment fait les engagements et tenu les engagements qu'on avait pris ? Ça, je crois que ça sera très important pour nos concitoyens.
Ouais, ça veut dire que si tout le monde, y compris les États, ne s'y met pas, ce sera impossible en fait de limiter la hausse des températures, Pierre Radan. Il faut que vraiment tout le monde s'y mette, quoi.
Bah écoutez, chasser en meute pour parler comme les Africains, c'est un plaisir. Hein, je dirais, si on veut attraper le gibier, il faut que tout le monde se mette à la chasse. Hein. Bon, et donc on est dans cette logique-là. Petit correctif par rapport à ce que disait Bernard. On a fait une conférence de citoyens il y a 2 ans au moment pour la conférence de Paris. Et la grande surprise, c'est que la sensibilité des opinions publiques des pays en développement avait dépassé en taux d'adhésion les opinions publiques des pays développés. Alors pour une raison très simple, les pays en développement sont plus victimes du changement climatique que les pays développés. Et vous voyez ce qu'on a en ce moment avec Saint-Martin, Saint-Barth et les îles des Antilles. Je veux dire, vous avez des territoires qui sont dévastés.
C'est des conséquences directes. Hein.
Ah bah oui.
C'est de la hausse des températures des océans en l'occurrence. Là.
Oui. Alors encore une fois, événement par événement, on peut pas donner des certitudes. Mais là, on est sur des statistiques qui bégayent, vous comprenez ? On est sur des choses qui se répètent tout le temps. Enfin.
Merci Pierre Radan et merci à vous Bernard Soulages. Ça a été un petit peu compliqué de parvenir jusqu'à nos studios. Ça me donne l'occasion de remercier également Florence Ponce qui a préparé cette émission et Valentin Vanner qui était à la réalisation. Le prochain débat, ce sera mercredi, même heure, même endroit. À bientôt.